Nous allons lire un long passage, s'il vous plaît, qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 27 et au verset, à partir du verset 9. Voilà, le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 27 et le verset 9. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle le Rachilon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Cloda et nous eûmes de la peine à nous rendre maître de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Le 14e jour, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre les écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer, sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour paraisse, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et aucun de vos cheveux ne se perdra. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire, en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches du gouvernail. Puis ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire, et la proue s'étant engagée resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais le centenier, qui voulait sauver Paul, les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire, et ainsi tous parvinrent à terre, sains et saufs. Amen. Voilà donc le récit détaillé de cette terrible tempête que l'apôtre Paul et ses compagnons d'infortune ont essuyé lorsqu'ils se sont rendus, n'est-ce pas, à Rome. Alors, je voudrais pouvoir vous dire qu'en 2018 et les années suivantes, si Dieu nous prête vie et si le Seigneur n'est pas encore revenu, je voudrais pouvoir vous dire donc qu'en 2018, tout ira bien. Je voudrais pouvoir vous dire que tout ira bien. Et que l'Église et ceux qui la composent, je voudrais pouvoir vous dire qu'ils n'auront aucun problème. Mais, à la lumière des prophéties bibliques pour notre temps, et également face aux événements actuels que le monde vit, que notre pays traverse, je crois plutôt devoir vous dire que nous nous dirigeons vers des temps difficile. Et nous pouvons appliquer à l'Église cette parole que nous trouvons là, au verset 9, où il est dit « La navigation devenait dangereuse ». Et au verset 10, Paul déclare « Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril ». Et effectivement, ce navire sur lequel donc Paul et ses compagnons étaient embarqués a dû affronter une terrible tempête qui a duré, dites-moi, une bonne quinzaine de jours. On doit voir l'estomac vraiment chaviré et retourné au bout de tant de temps, n'est-ce pas? Sur le plan spirituel, l'Église et chacun de ses membres doivent se préparer à affronter aussi, ayant le courage de regarder la réalité en face, affronter de terribles tempêtes. Je voudrais comme ça en mentionner quelques-unes. Il y a ce que l'on pourrait appeler la tempête du déferlement de la corruption. La Bible nous invite dans l'épître de Pierre, nous invite à fuir la corruption qui existe dans le monde. Et c'est vrai qu'à cet égard, le défi est grand. Le défi est grand de ne pas se laisser contaminer par cette corruption ambiante, généralisée, qui déferle aussi sur l'Église, pour tenter de séduire ses membres et les entraîner, eux aussi, les membres de l'Église, dans les péchés, et même les péchés les plus grossiers. Vous voyez, insidieusement, sournoisement, subtilement, le diable essaie de contaminer l'Église de Christ en faisant en sorte que notre conscience soit cautérisée, soit anesthésiée et que nous perdions la juste notion des choses, que nous ne sachions plus faire la distinction entre le bien et le mal. Il faut prendre garde. L'Écriture dit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Voilà. Bien sûr, lorsque on a péché, quand bien même ce seraient des péchés gravissimes, le pardon est toujours possible. Alléluia. L'Éternel est un Dieu qui fait grâce. Amen. Amen. On peut, lorsqu'on a chuté, on doit se relever justement par la grâce de Dieu manifestée en Jésus, qui a versé son sang à la croix du calvaire. Mais s'il est vrai que même après une chute grave, on peut se relever, Il vaut mieux, dit un proverbe, prévenir que guérir. C'est pourquoi, voyez, quant à cette tempête du déferlement de la corruption, eh bien, soyons sur nos gardes. Je voudrais m'adresser particulièrement aux parents ce matin. Les parents des enfants, les parents des adolescents. Vous savez, à leur égard, je ne veux pas vous effrayer, mais vous rendre lucide, Satan a sa stratégie. Et par toutes sortes de moyens, il veut pervertir même les plus jeunes. La pornographie, il se répand au travers des réseaux sociaux, des nouvelles technologies, ce qu'on appelle, vous savez aussi, la théorie du genre. C'est-à-dire que tu ne vas plus te définir par rapport à ta morphologie en tant qu'homme ou femme, mais tu vas te définir selon ton choix. Et quelle que soit ta morphologie, tu vas choisir d'être soit homme, soit femme. Et je voudrais vous dire et vous prévenir que certains enseignants, non pas tous, c'est vrai, mais certains enseignants sont partisans de cette théorie. Prenez garde, méfiez-vous, afin qu'ils ne corrompent pas vos enfants par leur influence néfaste. Il y a aussi la tempête du déferlement des fausses doctrines, qui sont facilement diffusées aujourd'hui, justement, par le biais des nouvelles technologies. Tenez, je n'ai pas le temps de mentionner toutes les fausses doctrines, ça prendrait beaucoup, beaucoup de temps. Mais par exemple, il y a cette tendance aujourd'hui de retourner à la loi de l'Ancien Testament. Je connais plusieurs chrétiens, des gens qui, ma foi, m'apparaissaient comme étant sérieux, comme étant engagés avec le Seigneur d'une manière authentique, qui se sont laissés berner par cette fausse doctrine, car c'en est une. Et voici qu'ils se mettent maintenant à observer rigoureusement le sabbat. Le sabbat. Voilà. Mais quand on lit la parole de Dieu, mes amis, il faut la lire. Notamment dans l'épître aux Galates et dans l'épître aux Colossiens. L'Écriture nous dit que ces choses-là, le sabbat et les observances de la loi de Moïse, c'était l'ombre des choses à venir, mais que la réalité se trouve en Christ. Le sabbat, voyez-vous, c'est le repos. Et c'est l'image, tout au moins, c'était pour les Juifs, l'image, le symbole du repos véritable que nous, croyants, nous, chrétiens, nous trouvons par la foi en Christ. Jésus n'a-t-il pas dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Alors la parole de Dieu nous dit que Christ est la fin de la loi, voyez. Et nous, chrétiens, nous sommes affranchis de ces règles légales, contraignantes. Non, Jésus est la fin de la loi dans le sens qu'il en est l'aboutissement, l'accomplissement authentique. Ce que la loi représentait symboliquement, eh bien Jésus l'a réalité, l'a réalisé d'une manière véritable. Retourner à la loi, ce serait revenir en arrière. Ce serait être déchu de la grâce, ce serait se priver de la grâce de Dieu. Il y a aussi la tempête de la persécution. Nous savons que c'est déjà le cas dans bien des pays. Mais vous savez, il ne faut pas trop rêver. La situation pourrait rapidement, y compris dans notre pays, se dégrader sur ce plan-là. Nous jouissons de la liberté, peut-être d'une liberté encadrée à certains égards, mais de la liberté malgré tout. Mais sous prétexte de laïcité, on sent qu'il y a eh bien, une hostilité croissante à l'égard de la foi chrétienne. Voyez, nos valeurs, nos convictions chrétiennes sont dénigrées et je remarque que ceux qui parlent beaucoup de tolérance sont souvent en fait justement à l'égard de nos convictions chrétiennes extrêmement intolérants. Et nous pourrions, dans un avenir proche ou lointain, eh bien, connaître de sérieux problèmes à ce sujet. Et puis il y a d'autres tempêtes que nous pourrions connaître, plus personnelles, mais qui affectent l'Église aussi. Parce que l'Écriture dit que quand un membre souffre, complétez le verset, tous les membres souffrent avec lui. Vous et moi, vous ou moi, nous pourrions connaître la maladie, le deuil, le chômage, la précarité, divorce, suicide. Ce sont des tempêtes, ce sont des tempêtes. Alors, comment faire face? Comment s'en sortir? Dans le texte qui nous occupe, au chapitre 27 donc, et au verset 29, regardez avec moi ce qui est dit là, ce qu'ils ont fait. Quand ils ont pris conscience qu'ils approchaient d'une terre, il est écrit au verset 29, « Dans la crainte de heurter contre les écueils, ils jetèrent quatre ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. » Quatre ancres pour ne pas se fracasser sur les écueils. Vous savez ce que sont les écueils? Ce sont ces rochers qui affleurent à la surface des flots quand on approche de la côte. Alors ils ont pris des mesures. Ils ont jeté quatre ancres, n'est-ce pas, pour ne pas se fracasser sur les rochers, et ils ont attendu le jour. Voilà. Et au fait, le jour vient. Amen. Vous savez ça? Le jour viendra. Quel jour? Le jour de son retour. Amen. Et alors là, d'une manière totale, définitive, absolue, toutes les tempêtes cesseront et nous entrerons dans la grande paix de Dieu. Mais d'ici là, nous avons besoin d'être bien ancrés. Et s'il est question là de quatre ancres que ces mariniers ont jetées pour assurer, autant que faire peut, la survie du navire, je voudrais parler de quatre ancres qui sont nécessaires à notre vie spirituelle, quatre ancres de la foi auxquelles l'Église et chacun de nous doivent s'arrimer pour ne pas sombrer. Il y a d'abord ce que l'on pourrait appeler l'ancre de la stabilité. Voilà, au verset 23, voici ce qui est écrit. Vous voyez, ces gens, ils étaient paniqués à bord. C'était la tempête et chacun de se dire, mais est-ce qu'on va s'en sortir? Oh là là, ce déferlement, ces vagues, n'est-ce pas, qui viennent se fracasser contre le navire, est-ce qu'elles ne vont pas finir par tout disloquer et nous allons périr corps et bien? Alors, devant cette angoisse, devant ce tourment, eh bien, l'apôtre Paul s'est exprimé de la manière suivante. « Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Écoutez ça. « C'est pourquoi, homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » J'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Nous appellerons cela l'ancre de la stabilité. Nous sommes appelés à être des chrétiens stables, non pas des gens qui sont facilement ébranlés, perturbés, ballottés de côté et d'autre. Et notre stabilité, je parle évidemment de notre stabilité spirituelle, nous la trouvons où ça? Dans la parole de Dieu. Paul était un homme plein de stabilité, plein de cette force intérieure. Et cette force intérieure, cette stabilité, il l'a trouvée dans cette certitude qui était la sienne et dont il fait mention ici. J'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. La parole de Dieu, mes amis, c'est du solide, vous savez ça? Et c'est sur elle que nous devons prendre appui. La parole de Dieu qui doit être crue et qui doit être vécue, car il n'est pas simplement nécessaire de croire à la parole, encore faut-il la vivre. Vous connaissez l'histoire de la maison bâtie sur le roc et de la maison bâtie sur le sable. Tenez, dans ces deux cas, la tempête a soufflé là aussi. Mais l'une de ces maisons s'est écroulée, l'autre a tenu bon. Pourquoi? Parce que celle qui a tenu bon était bien fondée, bien appuyé sur un ferme rocher, c'est ce qui assurait sa stabilité. Eh bien, ce qui va, dans le domaine spirituel, assurer notre stabilité, c'est le fondement de la parole de Dieu. Il faut s'appuyer sur cette parole. L'apôtre Paul écrira quelque part dans l'Épître à Timothée que c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Prendre la parole de Dieu comme appui. Se confier en elle avec une foi absolue, croire à ses déclarations, à ses promesses, et avoir le désir sincère de s'appliquer à la mettre en pratique. Voilà ce qui constituera pour nous un roc inébranlable, un point d'appui. Elle est sûre et solide, la parole de Dieu, pour assurer notre stabilité spirituelle. Il y a trop de chrétiens qui se contentent d'une lecture superficielle des Écritures, qui ne s'appuient pas sur la parole. Alors, lorsque surgit un problème, eh bien, ils ne parviennent pas à trouver en eux cette énergie dont ils ont besoin, parce qu'ils ont négligé la parole de Dieu. La parole de Dieu. Chers amis, prenez cette résolution ce matin. Hein? Voilà, on va entrer dans la nouvelle année. Pourquoi ne pas prendre de bonnes résolutions qui ne dureront pas quelques jours, quelques semaines, mais qui se perpétueront tout au long de l'année, même au long des autres années, si Dieu nous prête vie, de vous engager dans une lecture suivie de la parole de Dieu. Une lecture suivie. Vous savez, ne soyez pas de ces chrétiens qui lisent un jour dans le livre des psaumes, et puis ensuite qui passent à l'évangile de Matthieu, et puis après qui lisent un petit passage dans le livre de la Genèse, et puis en fin de semaine ils vont lire un ou deux chapitres de l'Apocalypse. Non, on ne construit rien de solide comme ça. Non, une lecture systématique de la parole de Dieu. Mes amis, il y a tout un fil conducteur de la Genèse à l'Apocalypse qui se déroule, qui nous mène à Christ, et il faut découvrir ces choses-là au travers d'une lecture régulière. Engagez-vous à lire un ou deux chapitres par jour, il vous faudra 5 ou 10 minutes, pas plus. Prenez quelques instants pour réfléchir, pour méditer sur ce que vous avez lu, et vous verrez qu'au fur et à mesure de votre lecture régulièrement, quelque chose va venir dans votre cœur. Votre foi sera solidifiée. Votre stabilité spirituelle sera affermie. Et lorsque quelques difficultés, quelques tempêtes viendra souffler dans votre vie, alors vous tiendrez bon parce que vous aurez appris à prendre appui sur la parole de Dieu. Et vous pourrez dire comme Paul, j'ai cette confiance en Dieu qu'il lancera comme il m'a été dit. Souvenez-vous de ça. Jetez dans votre vie l'ancre de la stabilité. Stabilité que l'on trouve dans la parole de Dieu. Et puis il y a une deuxième ancre, l'ancre de foi, l'ancre de l'unité. Regardez, au verset 30, il est dit ceci, « Comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez pas être sauvés. » Alors, les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. L'ancre de l'unité. Ils devaient tous rester à bord pour assurer la sécurité de l'ensemble des passagers. Personne ne devait quitter le navire prématurément de sa propre initiative. Il fallait que ces 276 personnes qui étaient à bord de ce navire soient unies. Soit unis. Voilà. Le salut de l'un dépendait du salut de l'autre. Et inversement, il fallait qu'ils soient unis. Eh bien, c'est là aussi notre besoin, mes amis. Parlant de l'Église et de ses membres, vous et moi, nous pourrions dire, c'est un jeu de mots facile, que nous sommes tous dans le même bateau. OK ? Nous sommes tous embarqués dans le même bateau. Et il s'agit d'y rester dans le bateau. Vous avez besoin de l'Église. Et l'Église a besoin de vous. C'est un principe majeur dans les Écritures, n'est-ce pas? C'est que nous devons rester unis. Toute la parole de Dieu enseigne cette nécessité. Nous pouvons essayer de trouver quelque échappatoire en disant « Oui, mais l'Église n'est pas ce qu'elle devrait être, etc., etc. Mes frères, mes sœurs ne sont pas assez sanctifiés. » Le prédicateur manque d'onction, et que sais-je encore? Et nous pourrions, au travers de ces prétextes, eh bien, penser que nous pouvons nous dispenser de ce que nous appelons la communion fraternelle. Mais il n'en est rien, mes amis. Vous avez besoin de l'Église. Et l'Église a besoin de vous. Ne désertez pas. Ne désertez pas l'Église. Aujourd'hui, se passe ce qui peut-être ne se passait pas dans les temps plus anciens, beaucoup de chrétiens prétendent pouvoir vivre leur vie chrétienne en marge de l'Église. En marge de l'Église. Je garde ma foi, j'entretiens, tout au moins je m'y efforce, ma communion, ma relation avec le Seigneur, mais voici, je me désolidarise d'autres chrétiens parce qu'ils m'ont déçu, parce que ceci, parce que... C'est une erreur, mes amis. C'est une erreur tragique. C'est quelque chose que la parole de Dieu désapprouve. Je pèse les mots d'une manière absolue. C'est une erreur et c'est même un péché et il faudra en rendre compte. Alors vous êtes à bord du navire, restez-y. C'est tous ensemble que nous voulons, n'est-ce pas, atteindre le royaume des cieux. Alléluia. Ce serait un orgueil terrible que de dire « Mes frères ne sont pas suffisamment sanctifiés pour que je continue de m'associer à eux. » Mais qui suis-je, moi? Est-ce que je n'ai pas besoin, moi aussi, de la grâce de Dieu? Est-ce que je n'ai pas besoin que Dieu me fasse miséricorde? Est-ce que je n'ai pas besoin que Dieu me pardonne bien souvent? Et même que mes frères et sœurs me pardonnent comme moi je suis appelé à les pardonner, oui ou non? C'est comme ça, n'est-ce pas? Alors il faut assurer cette ancre de l'unité. De l'unité. Il y a toutes sortes d'idées qui peuvent nous traverser la tête. Et le diable est un expert en la matière pour essayer de remplir votre cœur et le mien, votre cœur et le mien et le vôtre, d'amertume, de ressentiment. Refusez de manger de ce pain-là. Et dites à Satan, eh bien l'amertume ne passera pas par moi. Non, je me refuse à me laisser aller. Peut-être mon frère, ma sœur m'a déçu. Peut-être, eh bien, ceux qui sont en charge de l'Église n'ont pas été à la hauteur de ce que j'espérais. Peut-être, mais je ne veux pas. Je fais ce choix déterminé. Me laisser remplir d'amertume. Parce que l'amertume est un poison qui m'empoisonne moi d'abord et qui empoisonnera ceux qui viendront à mon contact. Parce que, mes amis, quand on a le cœur rempli d'amertume, on ne peut pas s'empêcher de l'exprimer oralement. L'Écriture dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Jetez dans votre vie l'encre de l'unité. Prenez cette autre résolution et dites au Seigneur, Seigneur, quoi qu'il arrive, en dépit de tous les progrès que l'Église a besoin de faire, et parce que justement elle a besoin de faire des progrès, c'est à cette Église-là que je veux m'attacher, parce que c'est ton Église. Et tant que tu estimes que toi, tu peux y rester, ma place, c'est d'y rester, moi, également. L'encre de l'unité. Et puis, il y a une troisième encre. L'encre de la piété. Regardez. Au verset 34, Paul dira ceci à ses compagnons d'infortune. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et aucun de vos cheveux ne se perdra. Ayant ainsi parlé, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce à Dieu, devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire, 276 personnes en tout. Vous avez vu ce qu'il a fait, Paul? Qu'est-ce qu'il a fait? Paul, ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu, c'est-à-dire après avoir prié, il y a une précision, devant tous. Il ne s'est pas mis dans un coin, ça fait sa petite prière, Seigneur, bénis ce repas, alléluia, merci, amen. Non, devant tous. Autrement dit, Paul a prié et a associé ses compagnons à sa prière. Il rendit grâce à Dieu devant tous. J'appelle ça l'encre de la piété. Et particulièrement, je veux souligner l'importance de la piété, de la prière collective. C'est bien de prier tout seul chez soi. Et il faut le faire. Ou de prier en famille. Jésus n'a-t-il pas dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et prie ton Père qui est là dans le secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mais s'il y a place, et il y a place, pour la piété, pour la prière personnelle, il y a place, en tout cas il doit y avoir place dans notre vie pour la piété, pour la prière collective. Collective. C'est une importance capitale. Il est fait souvent référence dans le livre des Actes, vous l'avez noté? D'ailleurs, tout a commencé comme ça, dans une réunion de prière. Lisez dans le livre des Actes, vous vérifierez, dans les tout premiers chapitres, il est dit, tous d'un commun accord, persévérez dans la prière. Et c'est ainsi que suite à cet accord dans la prière, le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. L'Église a expérimenté la glorieuse promesse et depuis 20 siècles, ça dure parce qu'au départ, quelques 120 hommes et femmes, ils n'étaient pas beaucoup, hein, à peu près ce que nous sommes ce matin, se sont mis à prier et à prier ensemble. L'encre de la piété. Nous ferions bien, nous aussi, de nous en souvenir et de nous inspirer de cet exemple. Ne désertez pas les réunions de prière. Ne désertez pas les réunions de prière. Soyez-y présents. C'est là que votre vie intérieure sera renouvelée, fortifiée. Vous savez, j'ai appris à prier. Non pas parce qu'on m'a dit, quand tu pries, il faut dire ceci, il faut dire ça, il faut dire le reste. Parce que j'ai prié avec d'autres frères qui, la plupart d'entre eux, étaient plus âgés que moi, de quelques années. Et en entendant ces frères prier avec ferveur, avec flamme, avec foi, voyez-vous, ça m'a boosté, ça a mené quelque chose dans ma propre vie de prière, et j'en garde encore un souvenir délicieux. La prière collective, l'encre de la piété. J'en profite pour vous dire que durant la première semaine de février, nous aurons un temps de prière commun, quotidiennement. Je vous expliquerai un petit peu plus tard quelles seront les modalités de cette semaine de prière. Et les églises de la région sont engagées, impliquées dans ce temps de prière. Nous prierons pour la région, pour le pays, pour l'Église et même pour l'œuvre de Dieu au-delà des frontières. Prenez la résolution. Décidément, vous aurez beaucoup de résolutions à prendre ce matin. D'y participer. Ne vous démobilisez pas quant à la prière. Il y va de notre survie personnelle et de notre survie collective. Une église qui ne prie plus est une église qui finira tôt ou tard par mourir de sa belle mort. Alors nous ne voulons pas mourir, hein, et nous voulons que la vie de Dieu nous anime. Amen. L'encre de la piété. Et puis, je terminerai en mentionnant ce que nous appellerons l'encre de la solidarité dans l'action. Ils s'en sont tous sortis, là, hein. Le texte conclut en disant, tous parvinrent à atteindre sains et saufs. C'est un miracle. 276 personnes à bord. Une terrible tempête qui déferlait sur la Méditerranée. Depuis une bonne quinzaine de jours, n'est-ce pas, ce bateau était entraîné comme un fétu de paille. Les vents le poussaient de côté et de l'autre. Eh bien, ils en sont tous sortis. Tous sortis. Mais ils n'ont pas attendu simplement que les choses se calment d'elles-mêmes. Non. Le centenier, l'officier romain qui commandait à bord, a pris une bonne initiative. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. C'est-à-dire qu'il a ordonné que chacun fasse sa part selon ses moyens et selon ses compétences pour que le salut de tous soit assuré. Personne dans l'affaire ne devait rester passif, mais chacun, à sa manière, devait participer à l'effort pour la sauvegarde de l'ensemble. Et bien dans l'Église, c'est pareil. En tout cas, c'est comme ça que ça doit être. Chacun doit s'impliquer dans le service. Soyez pas de simples spectateurs. Ne venez pas au culte en disant, voyons comment ça va se passer aujourd'hui. Est-ce que le chantre va être inspiré? Est-ce que les louanges seront suffisamment ferventes? Est-ce que les dons spirituels seront authentiques? Est-ce que la prédication me travaillera ou pas? C'était pas terrible ce matin. Ah, aujourd'hui c'était mieux. Ne soyez pas de ceux qui ont cet état d'esprit de critique, de dénigrement, de jugement quant à ceux qui servent. Mettez-vous vous-même à servir. Et quand on se met soi-même à servir, j'ai noté qu'on est moins porté à critiquer les autres. Parce qu'on s'aperçoit que servir Dieu, même avec les meilleures intentions du monde, ce n'est pas toujours aussi évident que ça. On voudrait faire beaucoup mieux, mais on fait, avec la grâce de Dieu, ce qu'on peut. Mettez-vous à l'œuvre, selon les dons, les talents, les capacités qui sont les vôtres. Vous savez, le service, ça peut commencer par des choses très simples. Très simples. L'Écriture dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, il l'est aussi dans les grandes. Et inversement, celui qui est infidèle dans les petites choses, il l'est aussi dans les grandes. Et si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu, eh bien, qui nous teste au travers des petites choses, pour commencer, nous en confiera de plus grandes. Service au travers de choses très simples. Par exemple, note ça. Aller chercher un frère ou une sœur qui n'a pas de moyens de transport pour l'amener à la réunion et pour le ramener ensuite. C'est une petite chose. C'est un petit service. C'est à la portée de n'importe qui, à condition bien sûr d'avoir un véhicule. Faut pas attendre qu'un ange descende du ciel pour dire « Ton ministère, c'est le ministère du transport. » Oui. Non, mais c'est vrai, il y a des gens qui se prennent la tête avec cette affaire de ministère. On dirait que tout d'un coup, ils grandissent, un ministère. Le ménage, est-ce qu'il y a le ministère du balai? Ça n'existe pas, ça. Non, mais quand tu vois de la poussière par terre, ben, tu prends un balai et tu te mets en ouvrage. D'ailleurs, tenez, pour parler que de ça, on a beaucoup de peine à recruter des gens qui veulent bien servir le Seigneur pour que les locaux soient propres. C'est un si petit service, mais malgré tout, un service important, oui ou non? Si nos locaux sont crasseux, sont miteux, excusez-moi, si les WC sont nauséabonds et pouilleux, ce n'est pas un témoignage rendu à la gloire de Dieu. Alors il faut se mettre à l'ouvrage. Ça ne concerne pas que les femmes, le ménage. Messieurs, vous ne perdrez pas votre virilité si vous prenez le balai ou l'aspirateur. Vous servirez le Seigneur. Écoutez ça, les machos. Hein? Soyez des serviteurs. Jésus a servi de la manière la plus humble qui soit. Il a lavé les pieds des disciples. Alors, dans notre contexte aujourd'hui, vous me voyez me mettre à laver les pieds de Julien, là, il serait tout gêné, le pauvre, hein? Parce qu'aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Mais dans le contexte culturel de l'époque, ça signifiait quelque chose. Voyez ? Offrir de l'eau à un bassin pour se laver les pieds parce qu'on marchait soit pieds nus, soit avec des sandalettes, eh bien, c'était une manière d'honorer les visiteurs qui venaient dans une maison. C'était une marque de politesse, de correction. Et souvent, c'était le travail d'un esclave. Et puis, dans l'esclavage, il y avait toute une hiérarchie. Et c'était souvent l'esclave le plus bas dans l'échelle qui faisait ce travail-là. Eh bien, Jésus, il a servi de cette manière-là. Ça a humilié Pierre. Les autres, ils n'ont rien compris. Ils se sont laissés laver les pieds, là, comme ça. Hein. Mais Pierre, Seigneur, toi, le maître et le Seigneur, tu me laves les pieds, c'est pas possible. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Voyez ? Alors servons le Seigneur. C'est l'encre de la solidarité dans l'action. Et si chacun s'y met, si chacun fait sa part, eh bien, mes amis, il va y avoir de belles choses qui se passeront. Voyez ? La conclusion. Tous parvinrent à terre, sains et saufs. Ça fait une phrase. Tout ce qui précède pour aboutir à ça. Et c'était capital, ça. Que tous parviennent à terre, sains et saufs. Et bien, pour que tous parviennent, non pas à terre, mais au ciel, sains et saufs, il faut qu'on jette l'ancre. L'ancre de la stabilité qu'on trouve dans la parole de Dieu. L'ancre de l'unité, être associé avec mes frères et sœurs. L'ancre de la piété, particulièrement de la piété de la prière collective. Et l'ancre de la solidarité dans l'action. Et comme ça, si chacun jette ses quatre angles, mes amis, nous arriverons tous sains et saufs dans le royaume des cieux. Amen. C'est une belle conclusion, là. Hein? Il n'est pas dit, voilà, il y en a 200 qui s'en sont sortis, puis les 76 autres, perdu qu'on sait bien. Non, tous, ils s'en sont sortis. Sont arrivés sur la plage, mouillés, trempés jusqu'aux os, transis, parce qu'un peu plus loin, il est dit qu'il faisait grand froid, la pluie tombait, mais sauvés. Alléluia. Alors peut-être on arrivera là-haut, après avoir essuyé de nombreuses et dures tempêtes. Mais l'important, c'est d'y arriver, mes amis. Quand bien même il faudrait se traîner sur les genoux ou ramper, l'important, c'est d'y arriver. Que vous et moi, un jour, nous entrions ensemble dans le royaume des cieux. Alléluia. Et qu'on puisse se congratuler, se prendre dans les bras les uns les autres, se dire, ça y est frère, ça y est sœur, on y est, alléluia, les combats, les tempêtes, tout ça c'est fini. Nous entrons dans la présence du roi qui nous accueille dans son palais pour l'éternité. Amen. On prie le Seigneur.